Alors, on reprochait fondamentalement au blouson noir quatre choses. Vous allez voir que ça mérite d'en regarder de près. Première chose qu'on reprochait au blouson noir, des bagarres entre bandes de jeunes. Bandes de jeunes réputées très violentes, armées de couteaux, de chaînes de vélo. C'est la grande époque de la chaîne de vélo. On incrimine des bandes d'adolescents qui peuvent atteindre des tailles très grandes. On parle parfois de bandes jusqu'à une centaine d'individus. Parce que des petits groupes pourraient s'agglomérer avec de plus grands groupes pour défendre un territoire plus gros contre un autre. Et aller se bagarrer entre eux. Parfois aussi se bagarrer avec les forces de l'ordre parce qu'elles tentent d'intervenir. Donc, toujours ces bandes de jeunes. Toujours cette bagarre de bandes de jeunes. Deuxième chose, dans l'ordre de gravité, dans les représentations médiatiques, on reproche au blouson noir, et ça va sans doute vous étonner encore plus, on reprochait au blouson noir d'être auteur de viols collectifs. Chose totalement oubliée, à une époque où les médias présentent ce qu'ils appellent tournantes, comme des nouveautés qu'on n'avait jamais vues, le signe que cette jeunesse est de pire en pire, on a fait des choses, etc., tout fou comme un brave dame. Alors, oui, c'est un peu ça quand même, ça devient un petit peu ça quand même. Alors, deuxième chose, troisième chose qu'on reprochait, du vandalisme et des axes qu'on disait déjà, c'est écrit noir sur blanc dans tous les textes des années 60, qu'on qualifiait déjà de gratuit. On fait une parenthèse pour dire qu'à mon sens, parler de la violence gratuite de quelqu'un, c'est ne rien dire sur le quelqu'un, c'est dire surtout que soit on ne comprend pas ce qu'est en train de faire l'autre. Donc à mon sens, la façon à moi de voir les choses, la gratuité est le masque de l'incompréhension de celui qui est en train de parler de cela. Donc on parlait déjà d'actes gratuits de vandalisme, tournés par exemple vers les bâtiments publics, chroniques de saccage d'école, étonnant quand on voit les documents de l'époque, plus cette spécificité des salles de concert, des concerts de rock'n'roll, etc. Enfin, quatrième chose qu'on reprochait au blouson noir, on les reprochait d'être auteurs de vols d'un genre nouveau, pour le coup, à l'époque, alors qui n'étaient pas des vols qui visaient l'enrichissement, recel, etc., qui étaient des vols d'usage immédiat, ludique, voire ostentatoire, de biens. Alors quels biens? Eh bien les nouveaux biens de consommation, précisément. Et alors à l'époque, il n'y en a pas encore foule, mais il y en a deux qui sont déjà au cœur et qui sont toujours au cœur des valeurs de la consommation, c'est les mobilettes et les voitures. Et on reprochait beaucoup au blouson noir, et de fait, le cœur de l'augmentation de la délinquance juvénile qu'on peut constater à l'époque, ce sont des vols de mobilettes et des vols de voitures, qui sont le plus souvent, comme on trouve guillemets dans les textes de l'époque à nouveau, des jeunes qui disent « Ah mais si on n'a pas volé, on a emprunté pour la virée du samedi soir, pour aller au bal, draguer les filles, etc. » Et avoir éventuellement des accidents aussi, parce que on boit pas mal d'alcool, etc. Vous voyez que c'est pas tout à fait intéressant d'avoir un tout petit peu de mémoire, quand même, dans ce débat-là. Néanmoins, très vite, on va donc parler d'autre chose dans le débat public, et la question des blousons noirs va disparaître. Le débat va donc revenir, et après ce petit détour historique, je reviens vers l'actualité, va revenir à la fin des années 80, à la fin des années 70, pardon. Si on veut prendre un point de repère chronologique, bon, je pense qu'on peut prendre comme point de repère la constitution de la commission Perfit et le rapport Réponse à la violence 76-77. C'est un bon point de repère de cette mobilisation. C'est aussi de cette époque-là très précisément que date le lancement des sondages sur le sentiment d'insécurité par un certain nombre d'instituts de sondages, etc. Donc tout ça commence à ce moment-là. Pour des raisons diverses, c'est un moment d'exacerbation de la concurrence politique à la fin des années 70. Chacun sent bien que le rapport droite-gauche risque de basculer pour la première fois dans l'histoire de la Ve République. Vous vous souviendrez que ça manque d'un cheveu aux législatives de 1978, puis que ça se produira en 81. Donc c'est un moment très, très dur et intense de la vie politique. C'est un moment aussi où peut-être des peurs classiques commencent à moins jouer dans l'argumentation politique. La peur du communisme joue moins, à la fois sur le plan international, guerre froide, et sur le plan national, où le Parti Socialiste a dominé le Parti Communiste. Et ça va être massivement un argument utilisé du côté droit de l'échiquier politique pour contrer le discours socio-économique de la gauche. Alors, je vais essayer de décrire à partir de ce moment-là comment on en arrive à la situation d'aujourd'hui, en essayant de décrire. Quoi qu'on en pense du bien fondé les uns ou les autres, c'est pas mon problème, j'essaie plutôt de décrire un phénomène et de voir ensuite les conséquences qu'il a eues. La question est de savoir comment on est passé d'une situation dans les années 80 où on avait une vie politique et une vie intellectuelle sur cette question-là, très clairement, clivé au milieu, un clivage gauche-droite, avec une ligne de fracture au milieu, globalement. Comment on est arrivé de cette époque à la situation d'aujourd'hui? La situation d'aujourd'hui étant celle d'une uniformisation du discours au centre de la vie politique, la constitution de ce qu'on pourrait appeler un espèce de bloc central, dans lequel on trouve toutes les gradations, toutes les nuances qu'on veut, mais on ne trouve plus de fracture, d'alternative, de radicalité. Avec plutôt, je dirais, des alternatives, des radicalités qui se déplacent vers les extrêmes de ce bloc central. Ce bloc central, traduit très concrètement aujourd'hui, UMP, Parti Socialiste, on voit bien cette uniformisation très large. La caricature de cela, on l'a tous les jours, je dirais, en ouvrant les journaux. Dès que M. Sarkozy dit quelque chose, M. Vaillant s'empresse de dire qu'il lui a piqué l'idée, qu'il n'aurait pas fait mieux. On en a tous les jours la manifestation. Alors, la question est de savoir comment on est arrivé à cette situation d'un phénomène qui est à la fois surpolitisé, dans son exploitation politique ou politicienne, et en même temps dépolitisé dans sa lecture, dans son analyse. Alors, on est arrivé à ce moment-là, à mon avis, en deux temps. Le premier moment, c'est le tournant des années 80 et 90. Il me semble qu'il s'est passé une série d'événements qui ont eu un très grand retentissement symbolique et qui ont commencé à faire éclater ces clivages et ces repères traditionnels. Souvenez-vous, 1989, c'est l'affaire du foulard islamique qui a fait éclater la gauche. Au plan politique, chez les intellectuels, dans le corps enseignant, bastion des forces de gauche. L'année suivante, 1990, c'est la première fois qu'on va parler d'émeutes urbaines, avec derrière tout de suite l'épouvantail américain. Les ghettos, les gangs américains. J'y reviendrai. L'année suivante, 1991, c'est la guerre du Golfe. Et souvenez-vous, dans le contexte de la guerre du Golfe, comment a été très fortement activé ce qui se constitue à l'époque comme la peur de l'ennemi de l'intérieur. Parce que sur un tel mur, on avait vu marqué « Vive Saddam Hussein », sont dévoilés dans les journaux, à la suite de fuites dont on connaît le caractère organisé, des rapports des renseignements généraux annonçant qu'il y a un risque de soulèvement dans certains quartiers populaires à dominante de population arabe. Rapport des renseignements généraux annonçant ça. Je crois que ces trois événements dont on voit bien qu'ils font un peu sens, tous les trois. Foulard islamique, banlieue islam, émeute urbaine, délinquance, banlieue, hein, guerre du Golfe, délinquance, arabe, banlieue, islam, terrorisme. C'est à ce moment-là que je dirais se fixe dans l'ensemble de la société, et plus simplement dans un certain type de discours, de droite et d'extrême droite, telle qu'elle surgit en 1983 sur la scène politique. C'est à ce moment-là que cette représentation centrale, ce stéréotype central, du délinquant, black beurre, de banlieue, le délinquant, voire proto-terroriste, qu'elle se fixe et qu'elle se répand dans la société française bien au-delà, qu'elle commence à faire éclater ce clivage. Premier moment. C'est d'ailleurs de cette époque-là que date la Constitution de ce qu'on a fini par appeler ces derniers temps le pôle républicain, par exemple. C'est de ce moment-là que ça commence à se constituer. C'est d'ailleurs dès l'année suivante, 1992, sur ces enjeux, mais aussi sur les enjeux européens, que Jean-Pierre Chevènement fait sa première scission avec le Parti Socialiste, et crée le mouvement des citoyens. Ça commence à ce moment-là. Le deuxième moment qui va achever le mouvement de bascule, je dirais, et emporter cette fois tout le Parti Socialiste en termes de parti politique, c'est le retour au pouvoir de la gauche emmenée par Lionel Jospin en 1997, avec donc ce nouveau discours sur la sécurité, qui consistait à dire, premièrement, la sécurité est une valeur républicaine, ni de droite ni de gauche. Deuxièmement, c'est un problème qui touche plus particulièrement les classes populaires, donc ceux que la gauche doit défendre, et donc, du moins c'est ce qu'ils croyaient, ceux qui votent pour la gauche. Avec, au fil des 5 ans du gouvernement, une aggravation en deux temps. 1999, deuxième moment de durcissement, après le moment 97, le colloque de Villepinte. Bon, 99, deuxième moment de durcissement, souvenez-vous des vœux du Premier ministre en janvier 1999, consistant à dire il faut maintenant cesser de parler des problèmes urbains, économiques, etc., pour ne pas donner des excuses sociologiques, guillemets dans le texte, aux délinquants, et il faut, à l'inverse, replacer au devant de l'analyse la notion de responsabilité individuelle. Par rapport au discours de la gauche de l'époque Bonne Maison, 1982, c'est un virage à 189. Dernier moment de durcissement, c'est, je dirais, le moment, l'emballement final, la panique, après les attentats inattendus du 11 septembre 2001, la loi sécurité quotidienne, un certain nombre de phénomènes de panique, a fortiori, puisqu'on rentrait en campagne électorale. Voilà, me semble-t-il, comment les choses se sont grosso modo déroulées. Alors, ce qu'il importe de voir, c'est les conséquences de cette uniformisation du discours sur deux autres séries d'acteurs qui construisent le débat public.